أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hier, jeudi, le 15 novembre, a commencé l'année lunaire, l'année islamique, l'année Hijr 1434. Hier, c'était le premier jour du mois de Muharram, qui représente le premier mois de l'année lunaire, de l'année islamique. Comme vous le savez, le calendrier musulman se base sur la lune. Et le calendrier musulman a commencé depuis 1434 années. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment à l'époque de Omar ibn al-Khattab, se sont réunis parce qu'ils recevaient des lettres, mais ils n'avaient pas de calendrier, ils ne savaient pas de quelle dater les lettres. Donc ils se sont réunis, bien après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques dizaines d'années, ils se sont réunis pour décider ensemble du début du calendrier musulman. Il était nécessaire d'avoir un calendrier musulman spécifique pour les musulmans. Chaque civilisation a son calendrier. La civilisation musulmane a aussi adopté un calendrier qui est particulier, qui est le sien. Et les compagnons, chacun, donc Omar ibn al-Khattab, comme d'habitude, il réunissait les grands compagnons autour de lui pour décider des grandes affaires des musulmans. Il leur pose la question: quelle année choisir pour commencer le début de l'ère islamique? Quelle année choisir? Certains compagnons ont proposé de choisir l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres compagnons ont proposé l'année de la révélation, c'est-à-dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 40 ans. Et d'autres ont proposé la date de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont proposé la date de l'Hijr, l'exil, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour aller s'installer définitivement à Médine, pour aller construire sa première société musulmane. Et Omar ibn al-Khattab, avec la sagesse qu'Allah lui a donnée, a choisi justement l'année de l'Hijr. Omar ibn al-Khattab s'appelait le Farouq, celui grâce à qui on discerne le vrai du faux. Et il a dit que l'Hijra, justement, c'est l'événement le plus important grâce auquel, justement, Allah a distingué le vrai du faux. L'islam avant l'Hijra était un islam faible. Les musulmans étaient persécutés à la Mecque. Et après l'Hijra, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Médine, il a trouvé un grand soutien à Médine. Il a constitué sa première société musulmane à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les compagnons ont tous adopté cette année, qui est l'année de l'Hijr, l'année 620, pour début 620 de l'ère grégorien, pour début du calendrier musulman. Donc aujourd'hui, on est en 1434. Hier, c'était le premier jour. Aujourd'hui, c'est le 2 Muharram. Muharram, c'est un grand mois. C'est un mois sacré aussi. Il fait partie des quatre mois sacrés. C'est le premier mois de l'année lunaire. Muharram, Safar, ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة وذو الحجة. Voilà les mois lunaires, les mois arabes qui constituent pour nous un élément important. Pourquoi ? Parce que les adorations, les actes cultuels que les musulmans font sont basés sur ce calendrier. Le ramadan, c'est un mois lunaire. Le hajj s'effectue pendant des mois lunaires. La zakat, on la donne chaque année lunaire. Donc, il faut donner de l'importance à l'année lunaire. Il faut la considérer, il faut la connaître. Et c'est important de savoir que hier, c'était le premier jour de l'année lunaire. Et l'enseigner à nos enfants pour qu'ils connaissent aussi un peu de leur civilisation islamique. Donc, chaque année qui passe, c'est une occasion pour nous pour se rappeler de ce que nous avons fait, de ce que nous avons réalisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le temps est un bienfait de Dieu et que beaucoup de personnes ne lui donnent pas assez d'importance. Les jours passent, les heures passent, les jours passent, les semaines passent et les mois passent et même les années passent et certains restent comme avant. Ils ne changent pas, ils n'évoluent pas. Hein, tu le trouves aujourd'hui ? Et l'année dernière, c'est pareil. Qu'est-ce que tu as changé dans ta vie ? Rien. Est-ce que tu as évolué ? Non. Donc, le musulman doit se rappeler, évoluer avec le temps. Chaque jour qu'il passe, il doit apprendre quelque chose, nettoyer son cœur d'une maladie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui dont les deux jours, la veille et aujourd'hui, sont comparables, sont pareils, c'est un perdant. فهو مغبون من تساوى يومه فهو مغبون nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam celui dont la veille et aujourd'hui c'est-à-dire hier et aujourd'hui rien n'a changé dans sa vie rien il n'a rien fait de nouveau il n'a pas évolué فهو مغبون donc c'est un vrai perdant nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant cette année lunaire beaucoup d'événements ont eu lieu et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé à changer beaucoup de choses. Certains étaient l'année dernière des rois ou des présidents, aujourd'hui sont en prison. Et des événements importants, et c'est pour ça qu'Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, dit au Allah, maître de l'autorité absolue. C'est Allah qui décide. On sait, aujourd'hui on est ensemble, l'année prochaine on ne sait pas ce qui va se passer dans ce monde-là. Et donc chacun doit se préparer pour la mort et pour rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala. Dis au Allah, maître de l'autorité absolue, Malikul Mulk, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Wa tu'izzu man tasha wa tu'dhillu man tasha. Il y a une année, des gens étaient les plus autoritaires, les plus imposants du monde. Aujourd'hui, ils sont les plus humiliés. Wala'yadu billah. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. Donc voilà, c'est important de se rappeler, le passage du temps doit nous rappeler que la mort se rapproche de nous. Chaque jour qui passe, c'est un jour de moins dans notre vie. Et il faut qu'on se prépare, Inch'Allah, pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, en vérité, le nombre des mois est de 12 auprès de Dieu, ainsi que c'est écrit dans son livre, depuis le jour où il a créé les cieux et la terre. Allah a décidé que cet univers fonctionne de cette manière-là. Hein, quand on voit la lune, elle tourne justement pendant une année, 12 fois autour de la terre. Et la lune, c'est un élément visible, très clair, tangible. Quand le mois, il est qualifiable facilement. C'est pour ça que le calendrier musulman est basé sur la lune et non pas sur le soleil. La lune et le soleil sont deux êtres qui sont soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le calendrier basé sur la lune est beaucoup plus précis, beaucoup plus tangible, beaucoup plus quantifiable que le calendrier basé sur le soleil. Même si les deux calendriers sont importants. Allah nous dit, quatre de ces mois sont sacrés. Telle est la religion dans sa rectitude. Évitez donc, durant cette période des mois sacrés, de vous faire du tort à vous-même. Les mois sacrés sont Dhul Qi'da, Dhul Hijja, Muharram. Ce mois-ci, c'est un mois sacré. Et un mois qui est le septième, le mois de Rajab. Les mois lunaires comportent entre 29 et 30 jours. Et c'est pour ça que l'année islamique ne dure que 355 jours au lieu de 365 jours. C'est pour ça qu'il y a le décalage. Chaque année, le ramadan se rapproche, l'Eid aussi, et il avance de 10 jours. Et les rites musulmans sont basés sur le calendrier lunaire. Allah nous dit, c'est lui qui a fait du soleil une lumière et de la lune une clarté. C'est lui qui a déterminé les phases de celle-ci, les phases de la lune, afin que vous puissiez dénombrer les années et calculer la durée du temps. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les astres, la lune, le soleil participent pour nous aider, pour calculer, pour savoir que notre âge avance. Ce n'est pas son but sérieux que Dieu a créé tout ça. C'est ainsi qu'il expose ses signes pour ceux qui comprennent, certes, dans l'alternance de la nuit et du jour. Dans tout ce que Allah a créé dans les cieux et sur la terre, il y a aussi des signes pour ceux qui le craignent. Allah nous demande d'ouvrir les yeux, de contempler l'univers, de méditer, de ne pas rester comme ça, de voir autour de nous. Allah nous a envoyé un livre écrit et il nous a aussi donné un livre ouvert qui est le livre de l'univers. Le musulman doit lire le livre écrit qui est le Coran et doit aussi observer le livre ouvert qui est l'univers pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va parler un peu de cette hijr, de cet exil. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été envoyé comme prophète, il avait 40 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 années à la Mecque, en train d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, leur lire le Coran, essayer de les purifier. Et malgré tout l'effort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, il n'y avait qu'une centaine de musulmans avec lui. Il a tout fait sallallahu alayhi wa sallam, mais le résultat n'était pas là. Et beaucoup de Quraychites, des Arabes de Quraysh, de son peuple, l'ont persécuté. Ils l'ont insulté, ils l'ont humilié. Et ils ont même tué certains de ses compagnons. Ils ont même essayé de le tuer lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah l'a protégé. Donc cette période de 13 années à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que le résultat n'était pas au rendez-vous. Et c'est pour ça qu'il abordait à chaque fois les Arabes qui venaient de loin pour accomplir le pèlerinage de la Mecque. Il les abordait, sallallahu alayhi wa sallam, pour leur exposer l'islam. Un jour, plutôt une nuit, il rencontre 6 jeunes qui viennent de Médine, des jeunes gens qui viennent de Médine accomplir le hajj. Et il les aborde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur explique l'islam, il leur lit le Coran. Et Allah donne sa lumière à ces gens-là, à ces jeunes. Ils deviennent tous musulmans, les 6. Ces jeunes reviennent à Médine, commencent aussi à appeler les gens au chemin d'Allah. Et le prophète envoie, sallallahu alayhi wa sallam, avec eux, Mus'ab ibn Umayr, un compagnon extraordinaire qui a accompli une mission extraordinaire du premier ambassadeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il appelle les gens à l'islam et voilà que Médine maintenant devient la première ville musulmane. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas là, tous les Médinois, toutes les familles médinoises comptaient parmi ses membres un ou deux musulmans. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à ses compagnons d'aller s'installer à Médine. Tout musulman avait l'obligation de quitter la Mecque, de quitter n'importe quelle autre ville pour aller s'installer à Médine. C'était l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ordre de Dieu. Tous les musulmans s'exécutent. Et le prophète reste en dernier sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour où Allah lui révèle que aujourd'hui tu dois accomplir ton exil toi aussi. Donc il va voir Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, son compagnon, son fidèle compagnon, pour l'informer de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils prennent le chemin tous les deux en quittant la Mecque pendant un moment de la journée où les gens généralement faisaient la sieste pour ne pas attirer l'attention. Parce que justement les Quraychites complotaient pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il quitte la Mecque. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu beaucoup de difficultés. Il a très bien préparé son voyage, mais il a beaucoup de difficultés. Le Quraysh a envoyé à sa recherche des hommes et ils ont donné un grand cadeau pour celui qui tue le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant sa fuite. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait confiance en Allah après avoir bien préparé son voyage. Il quitte la Mecque et il se réfugie avec Abu Bakr Saddiq dans une grotte qu'on appelle la grotte de Thawr. Et c'est là où les Quraychites arrivent devant la grotte et Abu Bakr disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, si l'un d'eux regarde ses pieds, il va nous voir. Parce qu'ils étaient presque visibles. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr, ô Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes? Allah est leur troisième. Que penses-tu de deux personnes? Le prophète et Abu Bakr, et Allah est leur troisième. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, nous avons fait le nécessaire. Ce que Allah nous a demandé, la préparation, nous avons bien préparé. Maintenant, nous devons avoir la confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah l'a sauvé. Et il arrive, sallallahu alayhi wa sallam, après 12 jours de voyage difficile, de fuite, à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où les Médinois étaient très très heureux de le recevoir. Anas, radiallahu anhu, rapporte que le jour le plus joyeux dans sa vie, il avait 10 ans, Anas, même pas. Il dit, le jour le plus joyeux de ma vie, c'était le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, accueilli par les petites filles qui chantaient Tala al-Badru alayna min thaniyat al-wada' wajab al-shukru alayna ma da'a lillahi da' ayyuha al-mab'uth fina ji'ta bil-amr al-muta' ji'ta sharraft al-madina marhaban ya khayra da'. Donc ces chants que les petites médinoises, les filles médinoises chantaient pour accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui souhaiter la bienvenue. Et Anas dit, et le jour le plus triste de ma vie, c'est le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il décrit ce jour-là comme Médine est devenue noire. Et le jour où le prophète est arrivé à Médine, il dit, Médine est devenue illuminée par la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc voilà cet épisode de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très très importante. L'Hégire. Et là, le prophète constitue sa première société musulmane. Pendant 10 ans, il a travaillé pour construire cette société musulmane, exemple de piété et de droiture, sallallahu alayhi wa sallam, pour mourir à l'âge de 63 ans à Médine. Et quand on a décidé de l'enterrer, le prophète avait déjà donné la consigne d'être enterré à Médine. C'est pour ça que Médine, c'était la ville vers laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré et qui n'a jamais quitté sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce mois de Muharram est un mois important. D'ailleurs, le 10 Muharram, c'est un jour important. C'est le jour de Ashura. C'est le jour où Allah a sauvé Moïse et son peuple de Pharaon. Et c'est pour ça qu'il est recommandé de le jeûner. Le 10 Muharram, c'est le samedi, pas celui-là, pas demain, le samedi d'après. C'est ce jour-là qu'il faut jeûner, parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous conseille de le jeûner. Si c'est possible de jeûner le vendredi et le samedi, inshallah, parce qu'il y a une raison valable pour jeûner ces jours-là, même si parfois il n'est pas recommandé de jeûner le samedi tout seul, mais quand il y a une raison valable, comme Ashura ou Arafat, on peut jeûner sans aucun problème. C'est un acte recommandé de jeûner le vendredi prochain et le samedi prochain. Et certains ont pris l'habitude de donner la zakat. N'oubliez pas la zakat. Ceux qui donnent la zakat pendant le mois de Muharram, le début de l'année, doivent la sortir, inshallah, comme d'habitude, avant la date butoir, qui est peut-être la date de Ashura pour certains parmi nous, inshallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم خفف عن إخواننا في غزة اللهم خفف عن إخواننا في غزة اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Juste avant l'arrivée de l'imam, inshallah, zakat pour ceux qui ont de l'argent de côté, qui dépasse les 3 500 euros, ils doivent donner, par exemple quelqu'un qui a de l'argent 10 000 euros sur son compte et qui ne l'utilise pas pour la vie de tous les jours, ben celui-là il doit donner 2,5%, c'est-à-dire 250 euros. Sur 10 000 euros, on donne 250 euros, à condition que l'argent que j'ai mis de côté dépasse le seuil qui est actuellement de 3 500 à peu près. Voilà un résumé.
C'est une fouille de la main.